Ben voilà. Tov, Erev Tov les Koulam, c'est parti, on y va. Erev Tov, hein, je suis perturbé par cet écran, mais je ne vais pas le regarder, je vous regarde.
Aux gens pour demander si ça allait être enregistré.
J'ai pas répondu ?
Personne n'a répondu.
Et ben voilà, il est là. Ouais, sinon tu ne serais pas venu ?
Non, moi je viens, mais les gens ont posé la question, je ne peux pas leur répondre, ne sachant pas.
T'as raison.
Tu sais pas.
Mais oui, on va essayer de continuer à enregistrer pour nos amis corrélégionnaires de Gaulle qui ne pourraient pas venir au cours. Ouais, c'est des choses qui arrivent, écoute. Hein. Moi, j'essaie encore de faire venir mes parents, mais pour l'instant... Pour l'instant, voilà. Donc, on y va. Parachat, Nassau.
J'allais demander comme question.
Quoi ? C'est quoi la parachat ?
C'est bien Nassau.
Eh bien, c'est bien Nassau. Après, Bamidbar, c'est Nassau. Donc, c'est vrai que j'aurais pu faire un cours sur Shavuot, mais en même temps, vous n'avez qu'à venir à mon cours pendant Shavuot. Et sinon, on ne va pas étudier du tout Nassau. Alors, y'a là, on y va. Parashat Nassau, c'est la plus longue paracha de toute la Torah. Pourquoi c'est la plus longue? On verra après. D'abord, quel est le sujet de la paracha? C'est une paracha qui n'est pas très, très intéressante à premier abord, parce qu'il y a des sujets techniques. On nous parle de 5 sujets techniques. Et on se dit, il faut les faire, machin. Mais en fait, elle rentre totalement dans le prisme général du livre de Bamidbar. Bamidbar, c'est le livre du chemin et donc du balagan. Eh oui, qui dit chemin, qui dit ça bouge, dit ça se casse.
Ça se casse ?
Ben oui, évidemment. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont déjà fait des travaux dans leur maison ?
Comment ?
On est d'accord que quand c'est sur les plans, c'est parfait. C'est-à-dire que la maison sur les plans, et en plus, si elle est modélisée en 3D par logiciel ordinateur, elle est magnifique.
Mais il y a toujours...
Et dès que le câblage y commence, c'est bizarre. Le plan, il est Begeder Amlatsa. Tu vois, c'est optionnel, le plan. Et tout d'un coup, là, il y a un problème. Nous, quand on a fait les travaux, on avait prévu de faire un grand espace... pour faire un grand salon, machin, et il commence à attendre, et tout d'un coup, il y avait une poutre porteuse qui n'était pas sur le plan et qui vient de se dévoiler en plein milieu. Bon, écoute, il va falloir arranger, il va falloir un truc, machin. Elle m'a la saute. Quand tu avances, c'est pas comme c'était prévu. Et en général, c'est aussi le balagan. Moi, je me souviens de l'été 2003. C'est pas ça que je me rappelle.
Tu n'étais pas né.
C'est gentil. C'était ma dernière année, mon dernier été en France. Et c'était donc également mon dernier camp EI. Parce qu'après, je partais en Israël. Et c'était le 80e anniversaire des EI. Et je me rappelle qu'il y avait une grande épreuve. Parce que, alors, pour le 80e anniversaire, tous les camps étaient réunis pendant 2 jours, 3 jours, je ne sais plus, 2, 3 jours. À un endroit dans le sud de la France. Et pour tous les tranches d'âge, il y avait des épreuves qui devaient réunir tout le monde. Moi, j'étais à ce moment-là animateur des enfants, des bâtisseurs, des 7-11 ans, et il y avait une grande course qui avait été organisée, une course d'orni. Orni.
C'est quoi ça ?
Objet roulant non identifié. C'est-à-dire que, voilà, sur le camp, avant qu'on arrive... à l'endroit de la réunion, il fallait que chaque camp construise un objet roulant non identifié et pour faire la course avec. Je te vois venir. Et donc, moi, je m'étais proposé pour être le responsable de ça. Et comme tu dis, t'imagines que j'ai une idée incroyable. Je me suis dit, on va faire une moto. Et on a construit du bois, avec du bois, on a fait un truc super. C'était très joli en plus. Et pour les roues, parce que c'était quand même assez important, j'ai eu une idée qu'il faut admettre a été très mauvaise. Je me suis dit, on va faire des roues en béton.
Quelle idée.
Oui, je ne sais pas pourquoi. Parce qu'en fait, j'avais trouvé des pneus, mais je me suis dit, mais comment je vais trouver le truc pour faire tenir le pneu? Donc, je me suis dit, je vais mettre un rondin de bois au milieu et je vais couler du béton autour, ça fera rond avec le pneu, et comme ça, c'est bien. Ça a marché, c'était bien rond et tout. Le seul problème, c'est qu'il y avait un détail que je n'avais pas pensé. C'est que le... Non, ça a pris et tout. Ben, c'est que le jour J, il fallait mettre leur nid dans le bus. Parce qu'il fallait aller de notre terrain de camp à... Donc d'abord, il fallait tout démonter, parce que notre truc était monté et tout machin, donc il fallait tout démonter, et puis il fallait bouger les deux roues en béton. Donc on s'est mis à 12 et on y a réussi, et finalement, quand on est arrivé sur place, on a dû tout remonter, on a réussi, mais sauf qu'à ce moment-là, il fallait pousser le truc, et pousser avec les roues en béton, c'était... Donc autant te dire qu'on a perdu. D'autant plus qu'au moment T, il y a un élément qu'on ne nous avait pas dit, c'est qu'il fallait mettre un enfant sur le... Donc, j'ai pris l'enfant le plus petit du camp et je l'ai scotché avec du scotch sur le... Je lui ai dit, écoute, on ne sait jamais, on a perdu. L'enfant aussi. Mais Kitsour, rien ne marche comme c'était prévu. Et c'est ça le livre de Bamidbar. Le livre de Bamidbar, dans la paracha de Bamidbar, on met en place le terrain, on a compté chaque tribu, on a dit où elle se place pour avancer. Sauf que voilà, la paracha de Nassau commence les problèmes. Et les problèmes, eh ben, il y en a dans chaque catégorie. Il y a des problèmes que ressent l'individu. Ensuite, il y a des problèmes que ressent le collectif, et, c'est-à-dire le peuple juif, et également face aux nations. Et donc, il va falloir à chaque fois, dans différentes parachas du livre, traiter les différents problèmes. D'accord ? Dans la paracha de Nassau, on s'occupe des problèmes de l'individu. Ensuite, il y a le Klal Israël, mais Klal Israël est formé de trois choses qui s'appellent Torah Israël, Eretz Israël et Am Israël. Donc, on a besoin de trois parachiotes. La Torah sera vérifiée, on va expliquer bien ce que c'est la Torah dans la paracha de Baalotecha, la valeur de Eretz Israël dans la paracha de Shlach et Am Israël dans Korach. Et ensuite, on va régler nos problèmes avec les nations. Seulement avec les nations, on a deux sortes de relations, soit au niveau politique, qu'on va gérer dans la paracha de Choukat, soit au niveau spirituel, qu'on va gérer dans la paracha de Balak. Et une fois qu'on a réglé tout ça, on peut faire un décompte à la fin des problèmes, paracha de Pinchas, on recompte les Bnei Israël, et arrivent les deux dernières parachot, Matot Mas'e, qui sont le sevrage du désert pour la préparation à l'entrée en Israël. Donc ça, c'est le plan général du livre de Bamidbar. Nassau, c'est donc les problèmes de l'individu. Maintenant, avant de rentrer dans les problèmes de l'individu en proprement parler, comment commence la paracha ? La paracha commence avec les deux derniers fils de Lévi. Parce qu'en fait, on a terminé la paracha de Bamidbar en disant que Lévi, il avait trois fils, donc trois familles, Kehat, Gershon ou Merari. On a compté les gens de Kehat et on a dit ce qu'ils faisaient. C'est-à-dire que c'est eux qui portent dans le désert les clés à Kodesh. C'est quoi les clés à Kodesh ? C'est les ustensiles du service divin, à savoir la menorah, Aaron Abrit, la table des pains, Mizbeach HaKtoret. C'est eux qui portent ça. Et on a laissé Gershon ou Merari pour notre paracha. C'est un peu bizarre, parce que c'est comme si on avait vraiment coupé au milieu. C'est-à-dire, soit tu me dis les trois dans Bamidbar, soit les trois dans Nassau. Pourquoi est-ce que tu as coupé ? Eh bien, tout simplement parce que ce que porte Kehat, ça ressemble à la paracha de Bamidbar, c'est-à-dire stable, fixe, bien ordonné, éternel. Et oui, puisque les clés à Kodesh, on va les utiliser tout le temps dans le Beth Amikdash. Alors que Merari et Gershon ou Merari, eux, ce qu'ils portent, c'est les trucs qui ne vont être utilisés que dans le Mishkan. C'est-à-dire, ils portent l'un les tentes, les pots qui forment les tentes du Mishkan, et l'autre les piliers. Mais tout ça, quand on va arriver en Israël et qu'on va construire le Beth Amikdash, on ne s'en sert plus. Donc, si vous voulez, Gershon ou Merari, ils ont un boulot à remplir, mais qui est uniquement temporaire. Eh bien, temporaire, c'est comme les problèmes. On a besoin d'un remède, mais c'est temporaire. Bezrat Hashem, un jour, vous enlèverez vos masques. C'est le but du jeu. C'est-à-dire que le masque est important à un moment donné, mais il faut savoir aussi l'enlever. Et donc, Gershon ou Merari arrive dans notre paracha de Nassau, puisque la paracha de Nassau est là pour régler les problèmes. Alors, quels sont les problèmes ? J'ai dit, il y a plusieurs styles de problèmes, plusieurs petites histoires techniques qui sont mentionnées dans la paracha pour faire face à différents styles de problèmes. Le premier qui est mentionné, c'est... Hein ? Non, ce n'est pas le premier, c'est le troisième. Le premier qui est mentionné, c'est celui qui serait Tsaroua ou Zav, celui qui serait atteint de lèpre. C'est la lèpre à l'époque. Alors, on nous dit que celui-là, qui serait atteint de la lèpre, eh bien, Tsarich lo'otzi oto mina machane. Il doit sortir du camp d'Israël, s'écarter. Ben non. Comment ça se fait qu'il a reçu la lèpre, la tsaraat ? Alors, il y a plein de façons de recevoir la tsaraat, mais le mainstream de pourquoi on reçoit cette maladie qui n'est pas vraiment naturelle, c'est quoi ? Lashonara. Maintenant, avant d'aller plus loin dans l'explication, dans la réflexion religieuse moderne, on pense que tous les problèmes peuvent être réglés en devenant un peu plus religieux. C'est comme ça que les rabbins y pensent. Est-ce que vous avez déjà entendu, moi j'ai entendu ça une fois, j'étais dans le bureau du Rav Cherki, et il y a quelqu'un qui a téléphoné pour poser une question. Et donc, quand j'ai entendu que la personne voulait poser une question, j'ai dit au Rav, je sors. Il m'a dit non, Tilmad. Alors, je suis resté, j'ai écouté la discussion. Il a mis sur haut-parleur et j'ai écouté la discussion. Alors, c'était une dame qui avait un grand problème au niveau de l'éducation des enfants. Elle dit, je ne sais pas quoi faire. Mon mari, il est chazan à la synagogue. Et je ne sais pas comment faire. Moi, je ne peux pas venir à la synagogue parce que j'ai d'autres petits-enfants à la maison. Et mon fils, qui a 8-9 ans, je ne sais plus quel âge il avait dit, je ne sais pas comment faire pour faire en sorte qu'il reste à la synagogue. Mon mari, il ne peut pas s'en occuper parce qu'il est chazan. Et très souvent, il sort, il va jouer avec ses copains et machin. Comment lui faire aimer la tefila si je ne peux pas m'occuper de ça ? Je pensais que le rave allait lui dire, écoutez... ce que j'avais déjà entendu d'autres rabbins venant d'une petite ville de France, du nord-est de la France, de dire que si jamais il reste bien à la tefila, il aura un bonbon, il aura un truc, genre tu lui donnes une carotte. Et à un moment donné, il viendra sans la carotte. Et ce n'est pas du tout ce que j'ai entendu. Il a dit, le Rav Cherki a dit, mais quel est le problème s'il sort ? Il dit, comment est-ce qu'il va apprendre l'importance de la tefila ? Et il lui a dit, d'abord, le fait qu'il voit que son papa, il est prêt à travailler pour le tzibour toutes les semaines, et des fois ça lui coûte, et des fois il est enroué, et des fois il est truc, mais il voit que son papa, il est tout le temps prêt à servir le tzibour pour l'importance de la tefila, ça fait un enseignement qui est beaucoup plus important que de rester à côté de lui et lui mettre le doigt pour bien suivre le truc. Ça, c'est Aleph. Deux, il a dit, c'est chashuv me'od me'od. Chez Amakom, chez la tefila. Donc, Beta Knesset, ne sois pas Beta Kele. C'est très important que l'enfant, il kiffe venir à la synagogue. Mais il va jouer avec ses copains. Mais c'est très bien qu'il aille jouer avec ses copains. Il y a un moment donné où il viendra avec ses... Alors, c'est quand au début ? Au début, c'est quand tout le monde dit Kohanim. Alors, il viendra parce que c'est un kiff de venir sous le talit et rigole et tout ça. Alors, il viendra. Et puis, à un moment donné... il aura aussi envie de montrer à son papa qu'il sait bien faire la tefila pendant 5 minutes. Mais qu'il veut, il sort après, qu'il sorte. Elle dit, des fois, pour que la tefila soit plus objective, plus vraie, il vaut mieux pas être dans la synagogue. Non, ça c'est pas ça qu'il voulait dire.
Mais c'est vrai.
Bien sûr. Nous aussi à la synagogue, on a un grand jardin derrière la synagogue pour que les enfants puissent aller jouer. Mais c'est fondamental. Maintenant, attention, venez pas dire que je pense que c'est bien de ne pas venir à la synagogue. Il faut venir à la synagogue. Mais des fois, et quand t'es un enfant, c'est sûr que ça rentre en ligne de compte. Eh bien, des fois. Trop rapproché, c'est écarté. C'est-à-dire que des fois, pour le rapprocher, il faut l'écarter. Atsarua, celui qui aurait dit donc du Lashon Hara, il a un grand, grand, grand problème. C'est quoi son grand problème ? Son grand problème, c'est qu'il a une incompréhension globale de ce que c'est que la Kedusha. parce qu'il a utilisé l'élément le plus kadosh de la création et il l'a détourné. La parole. En général, c'est un problème dans la parole. Or, Dieu a créé le monde par la parole. Il n'y a donc pas de plus grande kedusha que la parole. Toi, tu utilises la parole n'importe comment. Semble-t-il que tu ne comprends pas vraiment ce que c'est la kedusha. Donc, on va t'en écarter un peu. On va t'en écarter un peu pour que tu comprennes que tu as perdu quelque chose. Tu vas pouvoir faire un reset. Tu vas pouvoir faire un petit... Ok, deux secondes. On va se mettre à l'écart. On va réfléchir un peu. Et comme ça, tu pourras revenir. Et il sort pendant 7 jours du Mahané. Histoire de dire que toute réponse à un problème n'est pas forcément la proximité avec le Kodesh. Des fois, il faut prendre un peu de recul pour justement comprendre là où j'avais un problème et là où je peux corriger. Et donc, le premier cas, c'est le mec qui a un trop-plein de Kedusha, mal utilisé. Donc, ben, on va régler l'écartant un petit peu. Le deuxième problème, ben, c'est tout l'inverse. C'est quelqu'un qui, au contraire, ne comprendrait pas du tout la valeur de la sainteté. L'autre, le premier, il l'a très bien compris, mais il l'a utilisé à mauvais escient. Le fait que la parole, elle est créatrice, tout le monde le sait. Tout le monde le sait que la parole est créatrice. Alors, on n'est pas forcément créateur comme Dieu, il a créé le monde. Mais tout le monde sait qu'un mot, une phrase, ben ça crée une bonne humeur, ça crée une mauvaise humeur, ça crée plein de choses. Ça crée de la joie, mais tout le monde le sait. Et il n'y a pas que les magiciens qui le savent. Parce que les magiciens, ils le savent. Ben oui. C'est quoi la formule magique ?
Abracadabra.
C'est de l'araméen. Abracadabra, c'est de l'araméen. Abracadabra. Il a créé par la parole. C'est même pas une blague. Hein. C'est vraiment que de là que ça vient la formule magique. Donc, on sait tous que quand tu dis à quelqu'un « Boker Tov »,« Oh, comme tu es joli aujourd'hui ben, », ça fait quelque chose. Au contraire, quand tu dis « Ouh là là, oui, mets le masque, c'est mieux. » Eh bien, tu sais, ça peut te plomber une journée. Eh oui. Donc, tout le monde le sait que c'est créateur. Donc, le mec qui utilise la parole, il sait très bien ce qu'il fait en utilisant la parole. Mais sauf qu'il l'a très mal utilisé. Donc, lui, on lui a dit « Recule-toi ». Il y a un autre qui a complètement oublié qu'il y avait une dimension de sainteté. C'est celui qui est Moel Ma'al Bakodashim. Alors, il faut expliquer 2 secondes de quoi il s'agit. Il y a ce qu'on appelle la notion de propriété privée. J'ai des propriétés, tu as des propriétés, call top. Seulement à l'époque, il y a également des choses qui appartiennent à Dieu, au Beit Hamikdash. C'est ce qu'on appelle Ekdesh. Il y a quelqu'un qui a dit, ben voilà, moi j'ai une très belle vache, j'ai envie de la donner au Beit Hamikdash. On a toujours besoin de korbanot, on ne sait jamais, machin. J'ai envie de donner ma vache au Beit Hamikdash. Trouma, le Beit Hamikdash. Donc il y avait un endroit spécial au Beit Hamikdash, à côté du Beit Hamikdash, qui était Lishkat HaEkdeshim, où on entreposait là-bas, les Kohanim, ils gardaient là-bas tout ce que les gens avaient donné pour le Beit Hamikdash. Et on les utilisait au moment où on avait besoin. Maintenant, personne d'autre n'a le droit de les utiliser. Ça appartient au Beit Hamikdash, à Dieu. Donc, quelqu'un qui viendrait et qui volerait de là-bas. Ben, ce quelqu'un-là, il n'a absolument rien compris à la notion même de sainteté. C'est-à-dire que voler en soi, ce n'est pas bien. Mais là, il n'a pas compris qu'il y a une dimension qui n'est ni à lui, ni à moi. Ça nous dépasse complètement. Donc, toi, tu ne comprends pas ça ? Non seulement tu vas rembourser, et tu vas rembourser au prix fort, parce que tu as volé, donc tu vas rembourser 5 fois le prix, mais ces 5 fois le prix, tu vas les donner au Beit Hamikdash. C'est-à-dire qu'on veut que tu viennes prendre un petit peu de contact au Beit Hamikdash. C'est-à-dire qu'il y en a un qu'on a besoin d'écarter de la sainteté, l'autre au contraire, on a besoin de le rattacher. Des fois, l'enfant, il faut aussi lui dire, allez, maintenant tu viens à côté de moi. C'est aussi ça l'éducation. Ça, je ne dis pas que j'y arrive, hein, mais c'est aussi ça qu'il faut faire. Ça a l'air. Elle m'a la saute. Maintenant, cette dimension de Hekdesh, bon, alors évidemment qu'elle existe au niveau du Beit Hamikdash, mais il faut savoir qu'elle existe en Israël. Il y a aujourd'hui en Israël un truc qui s'appelle le Hekdesh, qui est géré par le Misra d'Adatot, mais c'est des objets, de l'argent, des choses que les gens ont donné pour la Torah. Exemple. Nous prions dans la communauté de Shorachim dans un GAN. Pendant, alors, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais pendant des années, les gens qui ont créé la synagogue voulaient un terrain pour construire une synagogue. Il n'y avait pas. Parce qu'obtenir un terrain, c'est très compliqué. Alors, si tu as plein d'argent et que tu es un investisseur et que tu achètes un terrain au prix fort et que tu as envie d'en faire une synagogue, la brioute. Mais la majorité des gens, ils ne veulent pas ça. Les synagogues, elles sont tout simplement construites sur des terrains qui sont donnés par la mairie. Maintenant, ça fait partie de la loi en Israël qu'il doit y avoir des synagogues. Maintenant, il ne doit pas y avoir 29 synagogues pour 100 mètres carrés. Ça, ce n'est pas la loi. La loi, il faut qu'il y ait... Alors, je n'ai pas les chiffres exacts, hein, je ne vais pas dire de bêtises, mais dans un rayon, un périmètre donné, il faut qu'il y ait un nombre de synagogues X qui remplit le Shérout HaTzibour, okay, qui est le service pour le public. Donc, il ne suffit pas d'une synagogue. Par exemple, je crois qu'il faut une synagogue de minimum trois rites, trois synagogues de trois rites différents pour permettre aux gens qui sont de rites différents, machin. Bon, le problème, c'est qu'à Jérusalem, tu comprends pourquoi tu n'as pas de place. Tu n'as pas de nouveau terrain parce qu'il y a des synagogues partout. Il y en a 29 au mètre carré. Mais tu vas dans d'autres endroits. Prenons une ville au hasard, Tel Aviv. À Tel Aviv, il y a un nombre incalculable de terrains abandonnés. Abandonnés mamash, c'est-à-dire des maisons en ruine ou des maisons pas en ruine, mais bon, franchement, c'est, voilà, qui sont inhabitées, inoccupées, rien du tout. Et qu'on n'a pas le droit d'en faire un projet immobilier parce que ce sont des endroits qui ont été donnés dans les années 30, dans les années 40, au Hekdesh. C'est des gens qui sont arrivés, qui ont dit « j'achète cet endroit-là, c'est pour la Torah ». Maintenant, à l'époque, il y avait des synagogues, mais Tel Aviv a beaucoup changé en 70 ans. Et donc, il n'y a plus de synagogue, mais l'endroit existe. Hein. Alors, et ça recommence. Je te dis ça, j'ai mon grand ami, le Rav Avraham Lemel, de Lev Israël, les synagogues qu'il a créées, particulièrement la synagogue de Kalisher, de la rue Kalisher, extraordinaire. Maintenant, cet endroit, c'était une ruine. Il m'a raconté, il m'a montré les photos quand il est arrivé, c'était une ruine. Mais ça appartenait au Hekdesh. C'est-à-dire que tu n'avais le droit d'en faire que une synagogue ou un Talmud Torah ou un Yeshiva, un truc. Il ne paye rien, comme Srar dira. Et c'est à rue Kalisher, à Neve Tzedek, genre un truc comme ça qui n'est pas en mode Hekdesh, je ne sais pas, c'est 10 000 shekels par mois, minimum, pour louer, je te parle. Et là, non, parce que c'est fait pour ça. Donc, il y a des endroits comme ça. Il y a des endroits comme ça. À Jérusalem, pas beaucoup, presque pas du tout, mais ça existe. Donc, la dimension de Hekdesh existait au Beth Amikdash de manière véritablement Kedusha, mais elle existe encore aujourd'hui. OK ? Et donc, ce personnage-là qui aurait un problème parce qu'il n'a rien compris à la dimension de sainteté, eh bien, lui, on lui dit, rapproche-toi. Donc, on a ici deux dimensions. On a soit celui qui a besoin de s'éloigner un petit peu pour pouvoir se corriger, et l'inverse, celui qui a besoin de se rapprocher, de se reconnecter pour pouvoir se corriger. Donc, ça, c'est les deux styles. Bon, on connaît ça aujourd'hui, hein. Bien sûr. Troisième problème, c'est plus un problème d'individu, c'est un problème de couple. Eh oui, la fameuse histoire de l'Aïcha à Sota. Mais en fait, que les choses soient bien claires, l'Aïcha à Sota. Alors, c'est quoi la Sota? On parle ici d'un couple qui a des problèmes de couple. Tellement de problèmes de couple que le mari pense que, voilà, que sa femme l'a trompé. Mais attention, je préfère le dire tout de suite. Pour qu'on mette en place tout ce qui va être mis en place, que je vais expliquer, d'après la halakha, on ne peut le mettre en place que s'il y a des vraies suspicions, à savoir qu'il y a deux témoins qui ont vu que le mari a dit à sa femme « Je ne veux pas que tu t'isoles avec cet homme-là » et que ces deux témoins l'ont vu s'isoler avec cet homme-là. C'est-à-dire ? Donc, autant dire que c'est quand même assez rare. Et donc, si jamais bah, tout est mis en place et que bah, le mec il a une suspicion, eh bien, il va l'amener, sa femme, et ils vont aller tous les deux au Beth Amikdash et il va dire « Voilà, je la soupçonne de m'avoir trompé. » Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Pas du tout. À ce moment-là, commence le boulot de Monsieur Cohen. Pas du tout. Pas du tout l'eau. Ça, c'est marqué dans la Torah, l'eau et tout ça. Mais qu'est-ce qui n'y a pas marqué dans la Torah ? c'est les 48 heures, 72 heures que le Cohen y passe avant de commencer le processus. À faire quoi ? À faire un cours de Tipul Zugi. Mais oui, il dit, mais qu'est-ce qui vous arrive? Mais qu'est-ce qui se passe?
Médiateur.
Ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu au Beth Amikdash tous les deux. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me rappelle quand j'ai fait votre mariage. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui... Et ce n'est qu'après que si jamais ça ne marche pas, alors il y a tout un stratagème. On lui fait boire de l'eau bizarre. Et on écrit comme ça, Sefer Torah, on efface et machin. On efface le nom de Dieu. Et... si elle boit l'eau et qu'effectivement elle l'a trompée, alors son ventre gonfle et il explose et elle meurt. Mais attention, elle ne meurt pas toute seule. Le mec avec qui elle a couché, à l'autre bout de la ville, il meurt aussi. Ah bah oui, elle n'est pas toute seule à avoir trompé. Non. C'est juste, elle, on la voit au Betamigdash. Mais t'imagines, il y a un mec qui est tranquille en train d'aller au chouk et tout d'un coup, oh, j'ai mal au ventre. Ah bah évidemment. Et bah oui. Maintenant, le Rambam, vous le savez, ce n'est pas vraiment le plus grand mystique du judaïsme. Et le Rambam va nous dire sur cette mitzvah-là, il dit, c'est la seule mitzvah où on demande un miracle. Ce n'est pas normal, cette histoire. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire? Pourquoi on a besoin de faire tout le stratagème au Beth Amikdash? Parce que semble-t-il que ce couple-là, ça fait longtemps qu'il a oublié pourquoi il s'est marié. Pourquoi on se marie dans le judaïsme? Alors, vous pouvez me dire, pour faire des enfants. Fonder une famille. Zéyafé, c'est mieux que juste pour assouvir des besoins charnels. Mais je ne pense pas que ce soit l'idéal. Pourquoi tu veux faire une famille? Pourquoi il y a cette Ish Veisha et donc la famille des qui va derrière? Eh bien, c'est simplement parce que l'homme et sa femme, ensemble, ils dévoilent Dieu. Zahou Shrina Benehem. C'est-à-dire qu'il n'y a rien dans ce monde qui dévoile plus le Créateur, le Hachem Echad, qu'un homme qui s'unit à sa femme. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Zemamash Echad. Donc la dimension qui unit un homme et sa femme, c'est la capacité de dévoiler Dieu. Tout seul, tu ne peux pas. Un célibataire ne peut pas réussir à dévoiler Akadosh Baruch. Ça, il faut le savoir. C'est pour ça que se marier dans le judaïsme, c'est une mitzvah. Maintenant, ça va encore plus loin. Parce qu'en fait, bah, ces gens-là, quand ils se sont mariés, ils ont passé sous la roupa. Sous la roupa, on a fait des brachot. Et si vous, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais les shiva brachot, elles ne parlent pas d'eux. Elles ne parlent pas du khatan et de la kala. On sort du khatan et de la kala et on parle de choses cosmiques. Ah bah d'abord on te dit She'akol bara l'irvodo. L'irvodo du khatan ou de la kala? Non, de lui. Il y a un khatan, une kala, on dit non, c'est pour lui. C'est Aleph. Ensuite on te dit Yotzer à Adam, Adam Arishon. Deux fois. Yotzer à Adam, parce que au cas où tu n'as pas compris que c'est de ça qu'on parle. Après on te dit, bon, on va peut-être parler de vous maintenant. Non, mais sa mère Tzion, Bevanea. On parle de Jérusalem. Après, peut-être on va parler de vous. Non, sa mère, on te ramène au Gan Eden. Et seulement à la fin, hein, la dernière bracha, on te dit, Tov, mais sa mère, Khatan, Imakala. Nous, c'est-à-dire, on en a gardé une quand même. Sympathique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, le couple, il n'est pas seulement le couple. Il dévoile quelque chose de beaucoup plus grand. Donc, ben, s'ils ont un problème, ce couple-là, c'est qu'ils ont un problème, ils ne sont plus mechoubarim, ils ne sont plus rattachés à la raison profonde de pourquoi ils sont unis. Et la reine, chashuv me'od me'od, j'ai tout à apprendre de vous évidemment, mais chashuv me'od, de faire, quand on voit des jeunes qui vont se marier, de leur faire une préparation au mariage. Et la préparation ra'ayonite, elle est beaucoup plus importante que la préparation halachique. La préparation halakhique des lois sur la nida, machin, nanana, c'est pas très compliqué. C'est pas très compliqué. Moi, je me souviens qu'on a étudié tous les séifim du Shulchan Aruch à la yeshiva, enfin, quand je me suis marié, on a étudié ça en deux semaines avec le Rav Cherki, vite fait, quoi. Par contre, on a passé quatre mois, je dis n'importe quoi, parce que on a passé les deux mois entre les fiançailles et le mariage. où on s'est assis près de 3 heures par semaine. On a parlé de ce que c'était le mariage. Là, la chotte, on a réglé ça vite fait. C'est beaucoup plus important de savoir qu'est-ce qu'on est en train de construire. C'est-à-dire, donc, ce couple-là qui a besoin d'un tipoul zougi, eh ben, d'abord, on lui fait ce tipoul. Si jamais ça ne marche pas, eh ben, ça ne marche pas. Donc, on a vu l'individu qui a besoin d'être un peu mis à l'écart. On a vu l'individu qui a besoin, au contraire, d'être rapproché. Et on a vu le couple. Mais je ne sais pas pour vous, mais peut-être que ce serait bien d'arrêter de guérir. Peut-être que ce serait mieux de prévenir plutôt que de devoir guérir. Donc, eh bien, on nous parle d'un quatrième cas. Et ce quatrième cas, c'est celui qui décide de prévenir plutôt que guérir. C'est celui qui sent qu'il a besoin là maintenant, avant de fauter, d'un bonus de spiritualité, d'un bonus de sainteté. Il s'appelle le nazir. Un nazir. Alors, comprenez-moi bien, le nazir, volontairement, je ne le traduis pas parce que je ne saurais pas le traduire en français. Parce que le mot ascète n'est pas bon, moine n'est pas bon, abstène encore moins bon. Oui. C'est-à-dire que le nazir juif n'a rien d'un moine. C'est-à-dire, ce n'est pas qu'il se coupe de la vie. Chez nos amis chrétiens, le moine, il se coupe complètement des plaisirs du monde et de ça, machin.
Parce qu'il peut pas pouvoir de vrai,
voilà. C'est mais là c'est le seul truc qu'il ne peut pas faire, c'est bah, ne pas être en situation de manquer de vie. Puisque, en fait, les lois du nazir, c'est plus ou moins les mêmes lois que le Kohen Gadol. Il n'a pas le droit de boire du vin comme les Kohanim qui n'ont pas le droit de boire quand ils sont en train de bosser au Beth Amikdash, parce qu'ils doivent être prêts à travailler, prêts à servir Dieu. Il n'a pas le droit de se rendre impur comme le Kohen, parce qu'on veut qu'il reste rattaché à la vitalité tout le temps. Il ne se coupe pas les cheveux. Pourquoi ? Parce qu'il veut rester avec la kdusha naturelle des cheveux. La coupe de cheveux, c'est l'intervention de l'homme sur la nature. Non, on veut que tu restes dans cette kdusha naturelle. Maintenant, quelle est la grande différence entre le nazir juif et le moine non juif ? Pardon ? Bah, il reste avec sa femme, ses enfants, il vit normalement. Mais en plus de ça, et c'est le plus important,
il garde des cheveux.
Oui, il garde des cheveux, bien sûr.
Il ne sait pas
laisser les
dire pendant plus de 2 ans.
Et quels 2 ans ? Pendant plus que 30 jours. Dans la Judaïne, la Nézirut, c'est 30 jours maximum d'être nazir, de prendre sur lui, de se mettre un surplus de spiritualité. Peut-être que tu le ressens que tu as besoin, mais c'est d'air. Mais ce n'est que temporaire. Monsieur chrétien qui rentre moine, c'est pour la vie. Il a prononcé ses vœux. Mais là, pas du tout. Alors, il y a une Néziroute qui est particulière, c'est celle de Shimshon, celle de Shmuel. Mais c'est parce que l'ange, il a dit, c'est particulier. Stam Néziroute, 30 jours.
Le nazir qui était l'ami du Rav Kook.
Il n'était pas vraiment nazir. C'est-à-dire qu'il avait pris sur lui de faire certaines choses, mais il n'y avait pas le din de nazir. Puisqu'il n'y a pas de Nézirut quand il n'y a pas de Beth Amikdash.
Donc, et si on fait un Néder ? Si quelqu'un fait un Néder ?
Néder, ce n'est pas encore nazir.
Non, mais
Néder,
si je fais un Néder, je vais être nazir pendant 6 mois.
Ah, si tu fais un Néder d'être nazir pendant 20, tu ne peux pas. Oui, mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est-à-dire que si tu fais un Néder d'être nazir toute ta vie, les rabbanim ils vont te faire en sorte d'enlever ton Néder. Parce qu'on ne veut pas que tu sois comme ça. Parce que ce n'est pas bien. Parce que tu dois être toi. Là, maintenant, tu as besoin. Tu sens que tu as besoin. OK. Mais c'est temporaire. Le nazir, il doit retourner à sa vie normale à un moment donné. OK. Si tu veux prendre, par contre, sur toi un truc spécifique, là, tu peux être sans limite de temps. C'est-à-dire que tu sais, toi, que les bananes, ça te monte à la tête. Tu sais que toi, quand tu manges une banane, tu finis par en manger 10 et tu as toujours mal au ventre. Alors, tu dis « Anin noder à la banane. » Je n'ai plus le droit de manger de banane. Je m'interdis de manger des bananes. À ce moment-là, ben pour toi, une banane, c'est mouktsé. Bon, ça va, tu n'as plus le droit de manger de banane. Mais là, on parle de nézirut. C'est tout un concept. Et donc, le nazir, à la fin de sa nézirut, il vient au Beth Amikdash, il amène un korban, khatat, parce que c'était une faute, khatat, parce que c'était une faute de devoir demander à changer de condition. On comprend tes circonstances, mais ne crois pas que c'est un idéal. Ne viens pas venir faire Nézirut sur Nézirut pour te la péter, genre je suis plus religieux que les autres. Et tu dois également couper tes cheveux. Voici l'histoire. Il y a quelques années, il y a un homme qui s'est baladé dans la forêt. Il faisait chaud ce jour-là, oulala. Et donc, en arrivant dans la clairière, dans le milieu de la forêt, il a trouvé le petit ruisseau. Et comme il faisait tellement chaud, il a décidé de se désaltérer. Il s'est penché pour prendre un petit peu d'eau. Et là, tout d'un coup, il a vu le reflet de son visage dans l'eau. Il a vu qu'il était d'une beauté incroyable. Il était tellement beau qu'il a voulu enlacer cet objet du désir. Et il est tombé dans l'eau. Il ne savait pas nager. Et plouf, le narcisse. Et il est mort et il est devenu la fleur de lotus. De narcisse. Chez les narcisses. Ça ressemble, hein? Ça ressemble. Non, pas trop. Chez les narcisses. Les fleurs et moi, ça n'a jamais été mon favori. La fleur de Narcisse. Nous, il y a fait ou pas? Hein? Non, tragédie grecque. Il n'avait qu'à apprendre à nager, hein, le pauvre. Le problème, c'est que cette histoire-là, eh ben, on la retrouve dans la Guémara, dans le traité de Nédarim, à la page 9. Où là-bas, on nous raconte qu'il y a un jeune homme, on ne lui donne pas son âge, qui est arrivé au Beth Amikdash à l'époque de Shimon HaTzadik. Il est arrivé en tant que Nazir qui vient amener son corban de fin de Nézirut. Et à ce moment-là, Shimon, il le voit arriver. Et il voyait cet enfant, ce jeune-là, il était de toute beauté, avec des cheveux longs. Mais quelle belle chevelure! Et il le voit, il l'enlace et il pleure et il lui dit: Béni, mon fils, Maraïta, l'achrit se'achazé ayafé. Il dit: mon fils, mais pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'es devenu nazir? Maintenant, tu vas être obligé de couper tes cheveux. Ils sont tellement beaux.
En un mois?
Non, bah non, tu vois bien que c'est quelqu'un qui avait les cheveux longs depuis longtemps. Là, c'est juste qu'une fois qu'il a terminé sa naziroute, bah, il doit se couper les cheveux directement. Maraïta. Et là, le jeune lui dit: écoute, j'étais dans la forêt. Il faisait très chaud. Et je suis passé dans une clairière. Et j'avais soif. Il y avait un ruisseau. Donc, je me suis penché pour prendre de l'eau. Et j'ai vu mon reflet. Je n'ai pas de miroir à la maison. Hein, et j'ai vu que j'étais d'une beauté incroyable. Et je me suis dit que mes cheveux, c'est l'atout le plus important de ma beauté. J'ai fait comme ça. J'ai même dit « Laurel » parce que je le vois bien. Et à ce moment-là, je me suis dit « Mais ces cheveux peuvent me faire tomber. » Donc, j'ai décidé d'être nazir pour pouvoir avoir une vraie raison de me couper les cheveux après. À ce moment-là, il a dit « Sheyirbuk motra beYisrael » et il dira que c'est le seul korban nazir qu'il a accepté de faire de toute sa vie. C'est-à-dire, tous les autres nazirim qui arrivaient, ils disaient « Bon, moi, je suis occupé. Tiens, pour toi, occupe-toi-en. » Il ne voulait pas s'occuper des nazirim, mais celui-là, ouais. En d'autres termes, le nazir, c'est quelqu'un qui comprend qu'il a maintenant besoin d'un bonus de Kedusha, pour après se remettre dans l'équilibre. Mais des fois, tu as besoin d'être déséquilibré pour te rééquilibrer. Toute personne qui a connu lui-même, ou malheureusement, Shalom, ou des amis, ou des gens qui ont, par exemple, sont tombés dans l'anorexie, ben, le traitement, c'est de les faire manger, pour qu'à un moment donné, voilà, on va se remettre au milieu. Mais à un moment donné, si tu es déréglé, il faut te dérégler de l'autre côté. Le nazir, il sent qu'il est en train de partir en vrille, donc il se remet en place avec un surplus de Kedusha, mais temporaire. Donc on a vu ici quelqu'un qui a besoin de s'écarter un peu, quelqu'un qui a besoin de s'approcher, le couple qui doit être corrigé, et enfin celui qui, bah, avant de tomber, décide de prévenir plutôt que de guérir.
Si on regarde le nazir avec ce qu'il doit faire, tout ça, on a compris ce qu'il doit faire après. Mais pendant la période de ce nazira, il n'a pas le droit de s'approcher d'un mort ou d'être...
Pendant la période de...
Non, oui. Il n'a pas besoin de se raser, il n'a pas besoin de boire du bain. Ce n'est pas encore peut-être suffisant pour avoir un surplus de Kedusha. Je veux dire, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il doit travailler,
j'entends bien ce que tu dis.
Il peut aller au bureau, il peut...
Je vais t'expliquer. Pour toi, la Kedusha, c'est quelque chose qui est relié au sacré. Tu,
son pour... nom l'indique, hein.
Oui, ouais. Oui, bien sûr. Mais quand je disais au sacré, je voulais dire, pour toi, la Kedusha, tu la trouves à la synagogue, au Beit HaMidrash, dans les moments où je suis plus facilement conscient que je suis lié à Dieu.
Au travail aussi.
Il y a fait. Donc, le fait qu'il continue sa vie de tous les jours, c'est là-bas qu'il va trouver la Kedusha. Il ira à la synagogue le matin, il ira étudier la Torah ou Beit HaMidrash quand il voudra, mais il ira travailler aussi, parce que c'est là-bas qu'il trouve la Kedusha.
Mais en quoi les quelques Je vais te dire.
Non, parce que tu as commencé en disant, oui, non, il va quand même au travail, machin, mais c'est là-bas qu'il doit trouver la Kedusha. Maintenant, comment il va pouvoir ? Eh bien, tout simplement parce que la Kedusha, c'est par excellence le rapport à la vie. Il n'y a rien de plus kadosh que la vie. Donc la Kedusha, c'est le rapport à la vie. Tout ce qu'on lui dit de faire, c'est d'être tout simplement mechoubar à la vie. Il n'a rien le droit de faire qui pourrait amoindrir sa vie. Donc le côté de ta parole d'aller avec la mort, machin. Mais le vin, mon ami. Tu me dis, bon, ça va, il ne boit pas de vin, c'est très grave. Mais si, c'est très grave. Parce qu'à l'époque, on ne boit pas d'eau. Ah oui, non, mais à l'époque, on ne boit pas d'eau. Eh ben non, l'eau, elle est sale. Tu n'as pas le robinet chez toi. À l'époque, on boit du vin, et pour ne pas être bourré toute la vie, tu coupes le vin avec de l'eau. C'est qu'en fait, tu mets du vin dans l'eau pour que l'eau, elle ne soit pas trop dégoûtante. C'est-à-dire, donc, tout le temps, tu bois du vin. C'est pas « je vais me faire péter une petite bouteille, qu'est-ce que t'en penses ?» Ouais. Non, c'est matin, midi et soir, tu bois du vin. Donc, ça fait partie intégrante de tous les jours. Et là, on te dit non. Parce que ça, c'est quelque chose qui peut amoindrir tes forces de vie. Je peux t'assurer que quand il revient, il arrive à son repas de midi et qu'il prend son verre d'eau brune.
Il a plus soif.
Je ne sais pas s'il a soif ou plus soif, mais en tout cas, il se dit « Ah bah tiens, je me rends bien compte que là, je ne bois pas de vin. » Ok ? Donc oui, c'est sûr que ça demande un retour en arrière au niveau de la vie de l'époque. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a du mal un petit peu à comprendre ça. Mais c'est mal à ça.
J'ai juste une question. Pourquoi le nazir, avant qu'il soit nazir, il n'a pas fauté ?
Naron ?
Il n'a pas fauté.
C'est pour ça qu'on l'a dit. C'est quelqu'un qui sent qu'il a besoin.
Pourquoi est-ce qu'il va amener un corban kratar ? C'est ça que je ne comprends pas.
Parce qu'il a senti le besoin d'être dans un niveau qui n'est pas le sien. Il aurait très bien pu se corriger
en fait,
sans
être
nazi.
Il a été un peu orgueilleux ou mal
voilà.
Casé.
Un peu comme ça.
C'est pour ça qu'il y a
des. C'est pas une faute en soi, mais tu n'aurais pas pu faire ça sans être nazi. Ouais. Ok. Donc voilà, une fois qu'on a réglé tous ces problèmes-là, eh bien, on peut passer à l'étape supérieure. C'est quoi l'étape supérieure ? On a réglé le problème de l'individu, on peut arriver au klal. Non. Non. Parce qu'il y a un élément intermédiaire entre l'individu et le peuple juif. Et c'est un élément très important. C'est quoi cet élément ? Non, on a parlé du couple. Le couple, c'est moi, quoi. C'est Ishtok et Goufo, ils ne font qu'un, on est romantique. Non, l'étape intermédiaire, c'est ce qui va faire que la parachat Nassau, c'est la plus longue de toute la Torah.
C'est l'énumération de ce que chacun doit faire.
Non, ça on a déjà fait. À la fin de la parachat Nassau, on fait l'inauguration du Mishkan. Et donc, eh bien, on va voir les 12 chefs de tribu qui amènent leur korban de cadeau d'inauguration au Mishkan, qu'on appelle korbanot amilouim. C'est chaque fois le même. 5 versets à chaque fois qui sont les mêmes et qui vont revenir 12 fois. C'est long. Et puis, ce n'est pas des petits versets. On n'aurait pas pu dire le premier et ensuite marquer « Ils ont tous amené pareil ».
Ça, c'est sûr.
Ça aurait été plus vite. Mais non. Et pourquoi non ? Bien, pour une raison très simple. Bien que j'ai amené les mêmes produits, tu comprends bien que le responsable de la tribu de Issachar, quand il amène ce qu'il amène, ce n'est pas du tout le même monde intérieur que lorsque le responsable de la tribu de Gad, il amène. Parce qu'on n'a pas du tout les mêmes choses qui nous font vibrer chez Gad et chez Issachar. C'est deux mondes différents. Les tribus, ce n'est pas la même chose. On a chacun une spécificité. Oui, on est tous ensemble dans le peuple juif, mais on a des spécificités différentes et c'est bien. La preuve, c'est que tous ici, quand on fait la tefila, on dit « Baruch atah Hashem, Eloheinu ve'Elohe Avotenu » avant de dire « Elohe Avraham, Elohe Yitzhak, ve'Elohe Yaakov ». Puisque Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est pareil pour tout le monde. Alors à quoi ça sert de dire Elohe Avotenu ? De qui on parle quand on parle de Avotenu, si on ne parle pas de Abraham, Yitzhak et Yaakov ? Eh bien, on parle de mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père. C'est-à-dire tout ce qui va me rattacher finalement à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mais ça passe par un prisme qui est le mien et qui est différent du tien. Qui va me rattacher à Dieu de manière différente. Parce que pour moi, je l'ai déjà dit, je vous l'ai déjà expliqué. Parce que pour moi, Dieu, il parle yiddish et il mange du gefilte fish. Il ne peut pas être autrement. Alors que j'ai l'impression que pour toi, Dieu, il mange plus du couscous.
Plus que le couscous.
Et de la prière. Et de la prière, là, bien sûr. Mais non, mais il y a vendredi soir et il y a Shabbat matin.
Et le poisson en sauce piquante.
Et le poisson en sauce piquante, bien sûr. C'est en mala asot. On a des façons différentes de nous rattacher à Dieu et c'est Beseder Gamour. On a besoin de toutes ces facettes-là. Et donc, c'est pour ça qu'on avait besoin de marquer les 12 corbanes 12 fois, même si c'est le même. Parce que c'est le même, mais ce n'est pas le même. Ce n'est pas du tout le même. Et en marquant cela, eh bien, on montre l'attachement que chacun a à sa famille, à sa tribu. Une fois qu'on a dit ça, alors on peut passer dans l'attachement au clan Israël. Mais ça, ça sera pour la semaine prochaine. Chazak ou bof ? Hop là.